avez vaillamment célébré, vécu cette agrippée de la Pentecôte. Je vous en félicite. Vous êtes en communion. Eh bien. Mais vous savez, vous n'avez pas reçu davantage l'Esprit Saint qu'hier. On ne le reçoit pas tous les ans d'une manière nouvelle, et ce n'est pas parce qu'on célèbre une belle agrippée qu'on reçoit l'Esprit Saint davantage. Alors finalement, ça servait à quoi? Ça a servi à quoi? Pourquoi vous êtes privé de sommeil? Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi vous êtes éreinté? Pourquoi vous avez éreinté vos cordes vocales? Et parce que vous aimez l'Esprit Saint. Quand on aime quelqu'un, on se régale d'être avec lui. Et là, parce que vous aimez l'Esprit Saint, vous vous êtes régalé d'être avec lui. Même si vos pensées, vous comprenez bien que c'est une confession, même si vos pensées erraient de ci, de là, n'empêche que votre cœur, lui, noétiquement, c'est-à-dire en esprit, était là. Et l'Esprit Saint présidait à notre vie. Là, une liturgie, une célébration, disons comme ça, n'est pas un moment de réflexion, n'est pas un moment de concentration sur des mots, sur des gestes, sur des sensations. Il peut y avoir ça. Mais une célébration, c'est une danse. C'est une fête commune. C'est un mouvement. On rentre dans un mouvement. Il y a des... Ne riez pas. Il y a des odeurs. De l'encens, par exemple, des odeurs de myrrhe éventuellement. Et il y a des sons, il y a des lumières, il y a des... Hein. Ça crée... C'est une manifestation iconique. C'est une icône du royaume des cieux. C'est une illustration... au bien faible, mais enfin quand même, une illustration de la gloire de Dieu qui nous parvient. C'est ça une célébration. Si on veut faire des discours, si on veut faire des analyses, si on veut faire des exégèses, des je ne sais quoi, il y a d'autres moments pour le faire, ça peut ne pas être inutile, mais une liturgie, c'est une exultation commune et personnelle. Une exultation personnelle parce que soi-même, on est devant Dieu et devant tout le mystère divin, et commune parce que c'est ensemble que nous vivons cela. Et cela, c'est la manifestation même de notre image de la Sainte Trinité. De même que le Père, le Fils et l'Esprit, trois personnes, trois hypostases, sont un seul et unique Dieu, une seule nature. De même, nous-mêmes, nous exprimons notre nature commune, notre nature humaine, en une multitude de personnes. Et comme notre conscience est assez limitée, nous pouvons subodorer la communion qui règne à l'image de la Trinité, comme je vous dis, entre les 50 ou 80 personnes qui sont là. Mais en fait, ça va être tout l'univers. c'est avec toutes les personnes du monde entier depuis le début de l'année, depuis la création d'Adam jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. C'est cela que nous vivons. Donc nous n'avons pas reçu spécialement, ou plus spécialement, l'Esprit Saint. Nous l'avions reçu au baptême. Et hélas, notre manque de foi fait que nous ne prenons pas assez conscience à quel point le Saint-Esprit nous fait vivre. Par la foi, nous essayons de nous rapprocher du Christ, de continuer. C'est essentiel. Mais pour nous rapprocher du Christ, il faut absolument que l'Esprit Saint soit en nous. Et depuis qu'il a disparu à nos yeux, aux yeux des apôtres, depuis qu'il nous est invisible mais présent, sa présence ne peut se sentir, ne peut se connaître que par la vie, la puissance, l'existence, la lumière de l'Esprit Saint qui est dans nos cœurs. Dans l'Évangile, nous avons vu que le Seigneur a dit que celui qui croit en lui fera des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Pourquoi ? S'il n'essaye pas de faire des miracles, il suffit de revoir, de recevoir l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas simplement de recevoir l'Esprit Saint, mais il faut que l'Esprit Saint ouvre en nous. C'est pas qu'il faille, c'est que de fait, si nous recevons l'Esprit Saint, il ouvre en nous un autre regard, une autre perception. Si nous avons l'Esprit Saint, nous voyons les choses autrement. Nous ne voyons pas les choses, nous ne voyons pas le monde, nous ne voyons pas l'histoire, nous ne voyons pas les autres, nous ne voyons pas nous-mêmes, uniquement le petit bout de la lorgnette, en ne voyant que les choses négatives. Mais l'Esprit Saint montre en nous qu'il y a dans le monde, dans la création, qu'il y a l'œuvre de Dieu, qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Et l'essentiel de notre vie, c'est d'appeler et d'avoir confiance dans la présence de l'Esprit Saint, qui est une personne réelle, libre, vivante. L'Esprit Saint, si je puis dire, c'est nos yeux. L'Esprit Saint, c'est notre respiration. L'Esprit Saint, c'est notre lumière. L'Esprit Saint, c'est celui qui, en nous, très discrètement, mais d'une manière forte, ouvre nos yeux et nous donne le mystère de la foi. Nous donne non seulement de croire intellectuellement, mais nous donne de vibrer, d'être rempli de la vie du Christ. Il faut l'Esprit Saint pour croire comme vous le croyez, que le pain et le vin que vous avez ingurgité tout à l'heure sont le corps et la vie du Christ. Il faut que l'Esprit Saint soit là pour nous faire réaliser que la communion nous amène à avoir une vie commune avec le Christ d'une part et les uns avec les autres. L'Esprit Saint, le Seigneur, dans l'évangile de l'Orthros, le Seigneur avait déjà donné une première fois l'Esprit Saint aux apôtres, quand il a soufflé sur eux en les disant « Recevez l'Esprit Saint ». Donc l'Esprit Saint, il nous est donné au baptême, il nous est donné dès l'origine. Et s'il l'a donné comme ça aux apôtres, donc à l'Église, pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait encore après la Pentecôte Ça, c'est différent. La première Pentecôte, la Pentecôte johannique, comme on l'appelle, quand le Seigneur a soufflé sur ses apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, etc. » Ça, c'était effectivement le souffle de l'Esprit Saint qu'il donnait aux apôtres. Mais il fallait encore que l'Esprit Saint lui-même se manifestât personnellement sous forme de langue de feu, comme vous savez, pour que les expériences individuelles, si je puis appeler comme ça, des apôtres constituent une église, forment l'église, c'est-à-dire scellent les personnes dans une même assemblée. Et quand je dis assemblée, ça ne veut pas dire c'est dans une même église, c'est-à-dire c'est plus qu'assemblée. Une assemblée, ce sont des personnes qui sont juxtaposées. Une assemblée, ce sont des personnes qui ont une seule vie, qui forment, tout en étant une multitude, qui forment quelque chose d'unique. Et le don, la descente de l'Esprit Saint sous forme de langue de feu à la Pentecôte a constitué l'Église, a fait que tous les hommes qui l'ont reçu ou qui le recevront, que tous ces hommes-là se forment un corps unique, qui est le corps du Christ. L'Esprit Saint, quand il est descendu sous forme de langue de feu sur les apôtres, a permis que les foules qui étaient là, et l'évangéliste vous dit qu'il y avait des cris de noms, quelques-unes des nationalités qui étaient présentes, chacune avait leur langue. Et tous pouvaient comprendre le langage unique des apôtres qui parlaient dans leur langue, eux aussi. Mais tous pouvaient le comprendre. Et c'est ce qui est notre expérience aussi. Dans l'Église, nous entendons une voix unique, celle de l'Évangile. Et tous, nous le comprenons, qui à sa manière, qui à une autre manière, chacun en fonction de ce dont il a besoin, et en fonction de ce que l'Esprit Saint sait qui nous est utile pour créer cette assemblée, cette Église, cette communion des personnes en Christ. Vous savez, depuis l'époque moderne, depuis une soixantaine d'années, le monde occidental redécouvre, paraît-il, l'Esprit Saint. Et s'inspirant des sectes protestantes, chez les protestants, sectes, c'est pas infamant, c'est pas péjoratif, j'oubliais le mot. Ce sont des distinctions entre les protestants et différentes formes de protestantisme. Tirant l'exemple notamment des pentecôtistes, mais pas exclusivement, l'Occident a cru redécouvrir l'Esprit Saint en parlant langue, en manifestant, en extériorisant par les gestes, par la parole, par les chants, leur foi en l'Esprit Saint. Ils pensent que l'Esprit Saint se manifeste par des charismes. Donc on parle en langue, donc on essaie de faire des guérisons, donc tout ça, peut-être que ça arrive. Mais avez-vous la garantie que ce soit l'Esprit Saint? L'Esprit Saint n'agit pas comme ça. Tant mieux si on se met à recroire à l'Esprit Saint. parce qu'il avait été, sa présence avait été occultée en Occident. Mais l'Esprit Saint agit d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, beaucoup plus cachée en même temps. L'Esprit Saint agit à la mesure, ah, pas exactement à la mesure, à la démesure, c'est-à-dire il agit non pas en fonction de notre progrès, de notre effort, mais tout de même en tenant compte de la mesure de notre effort, mais donne 1000 fois plus, 10 000 fois plus que nos propres efforts. Mais il faut qu'on participe. Donc l'Esprit Saint se manifeste à travers notre patience, à travers notre prière, à travers le support joyeux, j'ai pas dit hilar, mais à travers le support des difficultés, des épreuves, à travers la conscience que l'on prend de vivre de Dieu et pour Dieu. Là, l'Esprit Saint pénètre en nous, discrètement, et change en nous quelque chose, change notre cœur, et comme je vous disais préalablement, permet que nous vivions de plus en plus consciemment une autre forme de vie, que nous percevions l'envers, ou plus exactement l'endroit des choses et de l'histoire et des autres, alors que nous n'en connaissons que l'envers. D'un coup on voit la face cachée, mais la vraie face. La vie chrétienne, c'est d'acquérir l'Esprit Saint. La vie chrétienne, pourquoi c'est d'acquérir pourquoi consiste à découvrir l'Esprit Saint? C'est parce que seul l'Esprit Saint, dont c'est l'air maintenant, dont c'est le temps maintenant, et le temps de l'Ancien Testament avec les prophètes, qui ont préparé, qui ont modelé le peuple pour annoncer, et qui ont annoncé de cette manière-là le Fils, la deuxième personne de la Trinité qui devait venir, de manière à ce qu'on le reconnaisse. Peu l'ont reconnu. Il y a eu sa mère, la Sainte Théotoque, il y a eu Saint Jean, le Baptiste, il y a eu Saint Siméon et la prophétesse Anne. Il y a eu les bergers qui ont compris quelque chose, les mages aussi, pour montrer l'universalité du salut. Donc tout l'univers est venu, même des païens, les mages. Et il y a eu l'ère du Christ, si je peux l'appeler comme ça, qui n'a duré qu'une trentaine d'années, et encore dans la trentaine d'années, une bonne partie, 30 ans. Une bonne partie a été cachée, sauf à de rares moments. Par exemple, quand il était dans le temple à parler avec les docteurs et que ses parents le cherchaient, hein, et à d'autres moments comme ça. Mais ça a été épisodique, c'était des signes de qui il était. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il s'est révélé, c'est pas à ce moment-là qu'il s'est manifesté. Il s'est manifesté surtout pendant ces trois années de vie publique. Mais disons en gros que sa vie a duré 33 ans. Et après il est parti. Mais comme il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Il ne nous a pas donné un remplaçant. Mais il nous a donné quelqu'un, il nous a envoyé quelqu'un, l'Esprit Saint, qui ne le remplace pas, mais qui nous permet de le percevoir à la mesure de la recherche. Il faut, dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, celui qui veut venir à moi, qu'il boive, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Car je suis la source d'eau vive. Je ne me rappelle plus comment il le dit. Et le Christ, effectivement, par l'Esprit Saint, nous amène dans ces eaux vives, nous amène dans la vie même du Christ. C'est lui qui, comme l'eau, sanctifie, purifie, fait vivre. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous permet de déceler cela. Et dans notre vie chrétienne, il est indispensable que non seulement nous sachions que la Trinité est la Trinité, et que l'Esprit Saint est une des personnes de la Trinité, mais il faut que nous soyons attentifs, que nous voulions, que nous œuvrions, que nous cherchions à ouvrir le regard de notre cœur sur la vie de l'Esprit Saint. Il nous change réellement, tous. Tous ne sommes pas appelés à avoir des expériences comme Saint Séraphin de Sarov. Mais tous, nous sommes appelés à participer à l'illumination que nous donne l'Esprit Saint pour nous unir au Christ que nous cherchons. Et nous ne devrions pas avoir peur pour rien. Nous devrions savoir que dans tous les cas, l'Esprit Saint est là. Mais il faut y être attentif, il faut le vouloir, il faut le demander. Dans nos difficultés, dans les situations où nous n'avons pas ce que nous avons à faire, dans les tragédies que nous traversons, dans l'aveuglement humain dans lequel nous sommes quelquefois, dans les souffrances sous toutes leurs formes, dans nos échecs aussi sous toutes leurs formes. Si nous demandons à la présence de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint discrètement ouvre quelque chose en nous. Il déchire quelque chose de notre carapace égoïste pour nous faire ouvrir au monde réel. Et quand je parle du monde réel, c'est pas le monde matériel, historique, rationnel. C'est l'autre monde, le royaume des cieux. J'en profite pour faire une petite réflexion aux yeux du ciel et des cieux. Quand on parle de ciel et quand on parle de cieux, ce n'est pas exactement la même chose. Quand on parle du ciel, d'abord, il ne s'agit pas évidemment du firmament avec les nuages, le soleil, la lune, l'air ou le vide sidéral. Le ciel, ce n'est pas ça. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Enfin, c'est pas la présence de Dieu. Le ciel, c'est ce qui n'est pas la terre. C'est pas une blague. Le ciel, c'est ce qui n'est pas cette forme de monde que nous appelons terrestre, parce que c'est celui que nous sentons tous les jours. Le ciel, c'est l'autre monde, l'autre mode de vie, qui peut être notre expérience si nous demandons au Saint-Esprit de nous le montrer, si nous sommes attentifs à la présence de l'Esprit et attentifs à ses paroles dans le fond de notre âme, dans le fond de notre cœur, je n'ai pas dit dans le fond de notre intelligence. Les cieux, c'est encore autre chose, c'est pas l'autre monde. Les cieux, c'est cet au pluriel, c'est cet autre monde, mais qui est la demeure de Dieu, des anges, des puissances célestes. C'est pas pareil de dire je monte au ciel ou de dire je monte aux cieux. Je monte au ciel, c'est je quitte la terre et je vais dans la prière. Enfin, je m'unis au ciel. Alors que je m'unis aux cieux, ça veut dire que je me mets en communion, ou j'accepte d'être mis en communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, les archanges, toutes les puissances célestes et tous les hommes. Bref, vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui peut nous montrer ça. Et il nous montre dans le calme, dans le silence. Comment voulez-vous, par exemple, je prends une image, comment voulez-vous sentir la descente de la rosée sur l'herbe pendant la nuit, si vous êtes en voiture, que vous galopez dans le bruit, dans l'urgence, si vous faites pas attention, si vous ne foulez pas l'herbe aux pieds, bref, si vous vivez artificiellement, si vous voulez avoir l'expérience de la rosée, il faut, dans le calme, en vous abstrayant des bains et des douches, il faut fouler sans chaussures l'herbe fraîche. Et là, vous sentez la rosée qui s'est déposée d'une manière mystérieuse. Scientifiquement, on sait comment ça s'est passé, bien sûr, mais on ne l'a pas vu descendre. Et au bout de quelques heures, on se mouille les pieds. Ce n'est qu'une image, mais la vie de l'Esprit-Saint, la vie charismatique, c'est cette vie-là où on est la lumière même de l'Esprit-Saint vient éclairer. Vous comprenez bien que même le mot lumière est une image, mais vient éclairer, parce qu'on n'a pas d'autre terme. Il vient éclairer les choses, nous fait comprendre, nous fait voir, nous révèle le contenu du monde et notre relation avec les cieux, justement. Mais ne croyons pas que, bien sûr que c'est un mystère, mais un mystère contrairement à l'impression que l'on a dans le vocabulaire commun. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose de mystérieux. Un mystère, c'est une révélation d'un autre monde. Et les mystères sont faits pour se communiquer. Ils sont pas faits d'ailleurs. Les mystères, c'est une existence. C'est l'existence de Dieu, c'est la création. Tout ça, c'est un mystère. Mais tout ça, ce sont les mystères, ce sont les manifestations d'une réalité autre que la réalité, j'ose pas la dire quotidienne, parce que ces mystères sont quotidiens, mais qui ne sont pas bassement matériels, qui ne sont pas matériels ou psychiques, ce qui est pareil. Tous, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais tous, il faut que nous le demandions, que nous y soyons attentifs et que nous rentrions dans le silence, c'est-à-dire dans la paix, pour voir les choses autrement. Et là, l'Esprit Saint n'attend pas. Il se donne à nous. À lui soit la gloire, avec le Père éternel et le Fils unique, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.